le 18-20. Pierre Veil sur France Inter.
Le monde à l'envers, Cyril Sauvageau. Nous en parlions ici même hier soir avec Amélie Perrier. Les îles Cook envisagent de changer de nom. L'archipel du Pacifique, ancien protectorat britannique, entend revenir à ses racines polynésiennes après avoir porté pendant 2 siècles le nom de l'explorateur James Cook. Ce projet de changement de nom, Cyril, en rappelle beaucoup d'autres, surtout à l'époque de la décolonisation.
A commencé, oui, par le tout premier pays d'Afrique à avoir obtenu son indépendance, le Ghana, le 6 mars 1957, le jour même de l'indépendance, le premier président du pays, Kwame Nkrumah, annonce sa décision hautement symbolique, la côte de l'or, comme on l'appelait jusque-là dans l'Empire britannique, en raison de ses nombreuses mines d'or, devient donc le Ghana, référence à un ancien royaume africain de la région. D'autres pays du continent vont bientôt suivre l'exemple, le Bénin notamment, l'ancien Dahomey, mais il faudra une quinzaine d'années à l'ex-colonie française pour se rebaptiser, là encore, en hommage au royaume ancestral d'avant les colons. De la même manière, la Haute-Volta deviendra le Burkina Faso dans les années 80 et la Rhodésie se rebaptisera Zimbabwe. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pays d'Afrique ont changé de nom depuis la décolonisation. Le dernier en date, le Swaziland, a attendu 2018 et le 50e anniversaire de son indépendance. Le Swaziland s'appelle désormais Eswatini, son nom d'origine.
Et ce changement, Cyril, ne s'est pas fait dans la douceur.
Effectivement, le roi du Swaziland a été beaucoup critiqué chez lui pour avoir pris seul cette décision, sans consulter son peuple, à une époque 50 ans plus tard où, à vrai dire, plus grand monde ne s'en souciait vraiment. Pour l'opposition, changer le nom du pays n'est qu'un subterfuge, une façon de montrer qui détient le pouvoir et un moyen surtout pour le monarque de faire oublier les vrais problèmes du pays, la pauvreté et le chômage. La preuve que changer le nom de son pays n'est pas la solution miracle pour un souverain ou un gouvernement. Encore faut-il que l'idée fasse consensus et aille dans le sens de l'histoire. Exemple, en Birmanie, depuis 1989, officiellement, on ne dit plus Birmanie, mais Myanmar, c'est le nom imposé par la junte militaire. Ça n'est pas un problème pour, on va dire, une grande partie des Birmans qui utilisaient déjà ce nom auparavant, mais pour les minorités ethniques dans le pays, par exemple, c'est autre chose. Quant à l'opposition à la junte, eh bien, elle rejette catégoriquement ce nom de Myanmar. La communauté internationale n'est pas non plus unanime et plusieurs pays, comme les États-Unis, mais aussi la France, ont longtemps continué à favoriser l'appellation Birmanie ou Burma en anglais.
Et alors, quand plusieurs pays se mêlent de ces histoires de noms, alors là, Cyril, ça peut devenir un vrai casse-tête.
Mais regardez ce qui s'est passé avec la Macédoine. Vous connaissez l'histoire. Depuis le début des années 90, cette région d'ex-Yougoslavie et ses 2 millions d'habitants réclamaient le droit de s'appeler Macédoine. Or, c'est aussi le nom d'une région du nord de la Grèce. La querelle diplomatique qui oppose les deux pays a duré près de 30 ans et a longtemps semblé inextricable jusqu'à ce qu'un accord soit enfin trouvé. Depuis, les Macédoniens ont approuvé le changement de nom par référendum. Le Parlement grec a fait de même après bien des atermoiements. Résultat, la Macédoine va non seulement s'appeler officiellement République de Macédoine du Nord, mais elle va aussi pouvoir enclencher son processus d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Comme quoi, au-delà des symboles, changer de nom pour un pays, c'est aussi un peu changer d'époque.